France Culture.
Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire des drogues à l'occasion du colloque Drogues et Culture organisé à Paris par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie et la chaire santé de Sciences Po. Un colloque sur 3 jours, de jeudi à samedi prochain, avec l'intervention de nombreux spécialistes, historiens comme sociologues, sur l'ancrage des usages de drogues dans une société ou dans une population. Certains d'entre eux d'ailleurs, de ces spécialistes, seront nos invités mercredi et jeudi. Jeudi pour évoquer dans le débat la longue histoire des drogues peu condamnée tant qu'elle touchait un milieu d'élite artistique et sociale. Mercredi, nous nous demanderons comment le cinéma et la littérature sont passés d'un traitement compréhensif, entre guillemets, de l'usage des drogues à une vision noire de ces addictions. Demain, le documentaire d'Aurélie Luneau et de Marie-Ange Garandeau traitera d'un fait divers, une overdose qui, en 1969, déclencha à Bandol une vive polémique dans l'opinion et participa, entre autres, aux changements législatifs de 1970 et les changements de 1970 et des années qui suivirent. Nous en parlerons également ce matin avec notre grande invitée, Madame Monique Pelletier, qui avant d'être secrétaire d'État à la Justice, ministre de la Condition Féminine et de la Famille, membre du Conseil Constitutionnel et actuelle présidente du Conseil National du Handicap, fut en charge du premier grand rapport sur la drogue, remis au président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. C'était il y a 30 ans, en janvier 1978. Avec elle, nous verrons ce que la société des années 70 pensait de ces questions et comment ce rapport fut perçu dans ce contexte. La drogue, qui était jusqu'alors en France le fait de cercles restreints d'adultes, est devenue un phénomène national à partir du moment où, vers 1969, elle a fait irruption dans la jeunesse. Le personnage du jeune drogué apparaît alors. Autour de lui se répand une rumeur passionnelle que les médias amplifient. Chacun, dès lors, réagit à sa manière. Les pouvoirs publics, sollicités de toutes parts, mènent des actions destinées à enrayer le phénomène, mais sans qu'il puisse agir d'une réponse d'ensemble et d'autre chose que d'un dispositif d'urgence. Les spécialistes de la toxicomanie interviennent pour tenter d'apporter une réponse adaptée à un phénomène mal connu. En même temps qu'ils défrichent ainsi un terrain vierge, ils monopolisent le discours. Les Français, trop vite inquiets ou trop vite rassurés, ne sont pas à même en général de discerner l'importance du problème sous l'ampleur des réactions qu'ils provoquent. Seuls les familles directement intéressées parce que victimes de la drogue peuvent mesurer leur impuissance et leur dénuement. Enfin, les drogués eux-mêmes, dans cette confusion, gardent le silence comme si la drogue était leur seul langage pour se faire comprendre des adultes et plus généralement des autres. Face à des attitudes aussi différentes, il était nécessaire de faire le point. Voilà ce que vous écriviez, c'était il y a un peu plus de 30 ans, Monique Pelletier, en ouverture de ce rapport qui s'appelait donc de la mission d'étude sur l'ensemble des problèmes de la drogue que vous aviez présenté au président de la République, un rapport qui vous avait été commandé un peu plus de 6 mois plus tôt, en juin donc 1977, par Valéry Giscard d'Estaing, et qui a été publié à la Documentation française. On voit bien que c'est un langage de début, pourrait-on dire, le langage du début d'un travail. On a l'impression que ce que vous exprimez là, dans votre rapport, en ouverture de ce rapport, Monique Pelletier, c'est que on ne sait pas grand-chose et qu'il s'agissait pour vous, mandaté par le président de la République, de rassembler des données, des faits, des analyses qui permettraient enfin de comprendre ce phénomène émergent, puisque vous dites qu'il a à peine 10 ans lorsque vous rendez ce rapport, vous le datez de 1969, l'émergence de ce grand phénomène dans la société française. Monique Pelletier, bonjour.
Bonjour. C'était un rapport qui intervenait, à mon avis, utilement, parce que à l'époque où les responsables des jeunes, que ce soit une assistante sociale, un proviseur ou les parents, n'osaient pas parler des cas qu'ils connaissaient. Mmh. C'est-à-dire que c'était une sorte de mal absolu, non pas pour les jeunes qui fumaient du hash, mais pour les parents, les adultes,
les éducateurs,
les médecins, bref, tous ceux qui avaient à intervenir. Et j'ai été très, très frappé. J'habitais une commune où jamais le commissaire de police n'avait rencontré le proviseur pour en parler. Mmh. Or, devant le lycée de cette commune, tout le monde savait qu'il y avait des dealers, des échanges de drogue, etc. Donc la première réflexion que nous avons faite, car nous étions une équipe pluridisciplinaire.
Très nombreuse, oui.
Oui, qui comportait aussi bien des représentants de la police que de la magistrature, que de la médecine, que de la psychiatrie, que de l'éducation de la jeunesse. Bref, j'avais un palais social qui était très intéressant et très complet. La première réaction que j'ai eue, c'est de dire « il faut organiser entre les intervenants des rencontres périodiques. Il faut qu'ils se connaissent, il ne faut pas qu'ils changent de mission. On ne demande pas à un commissaire de police de devenir un psychiatre ou à un proviseur de devenir policier, mais qu'ils fassent le point ensemble. »
Mais quel était l'intérêt et l'objet de cette commande de mission de la part de Valéry Giscard d'Estaing? Ça voulait dire tout de même qu'il y avait un débat public, un début de débat public à l'intérieur de la société des années 70 pour que vous soyez mandaté par le président de la République sur cette question de la drogue, Monique Pelletier.
Mais il y avait d'abord eu ce qu'on a appelé la French Connection, c'est-à-dire qu'on a
début
découvert.
Début des années 70.
Oui, on a découvert des laboratoires de transformation d'opium en héroïne dans le midi de la France, et sous l'égide du ministre de l'Intérieur Marcellin, qui était un grand autoritaire, et je dirais qu'il a bien fait, la plupart de ces laboratoires ont été supprimés. Une fois ces laboratoires supprimés, l'héroïne est devenue plus difficile à trouver, plus chère, et plus meurtrière parce que encore moins certaine dans sa composition. Et à l'époque où j'ai entamé ce rapport, il y avait environ, disait-on, une cinquantaine de mille d'héroïnomanes en France. Mais c'était des chiffres approximatifs parce qu'on ne le savait que très peu. On connaissait ceux qui en mouraient, on connaissait ceux qui étaient interpellés régulièrement. Il y avait donc 50 000 héroïnomanes et il y avait de multiples fumeurs occasionnels de cannabis, ainsi que des réguliers. Mais les autres produits étaient alors non connu, en tout cas non commercialisé en France. Et il fallait
faire le point
parce que le premier soir où j'ai été nommé et où je n'avais pas encore une grande connaissance de ce problème, la première question que m'ont posé les journalistes, c'est « est-ce que vous êtes pour les drogues douces ?» Et le mot de « drogue douce » était un mot qui circulait dans la société.
On était dans la société des années 70, il faut le rappeler.
Je parle de l'année 77 en ce qui me concerne, mais qui est depuis les années 70, c'était à peu près pareil. Et je crois qu'il y avait à l'époque une grande différence entre l'herbe, qui ne posait guère de problème de nocivité, et le cannabis en résine, dont la composition était alors assez bien connue, alors qu'elle ne l'est plus aujourd'hui, mais peut-être nous en parlerons. Donc, les fumeurs de cannabis, on constatait quoi ? On constatait qu'ils se désocialisaient quand ils étaient des fumeurs réguliers, qu'ils formaient dans les établissements scolaires un groupe à part qui progressivement ne venait plus au lycée ou en tout cas ils travaillaient mal, présentaient des symptômes identiques par le goût de certaines musiques, par des habitudes un peu noctambules, Et c'est déjà en soi une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il est bon de laisser une partie de la jeunesse française se désocialiser? Bon, donc ça a été, à la suite sans doute de lettres ou de demandes, pour le président de la République, une mission qui semblait de l'ordre de la nécessité.
Alors, ce qui est très étrange, c'est que vous insistez beaucoup sur le terme de jeunes et de jeunesse. Et en fait, quand on lit votre rapport, on voit bien que c'est ça l'objet de ce rapport. C'est-à-dire que si la drogue touchait des personnes plus âgées, etc., d'une certaine façon, on pouvait la considérer comme une partie marginale, comme l'alcoolisme d'ailleurs, qui faisait certes des ravages, mais dont on pouvait considérer que, puisque ces personnes étaient adultes, eh bien elles faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Or là, ce qui vous préoccupe, et la mission même qui vous est demandée, c'est justement de voir une partie de la jeunesse, vous avez traité de l'enseignement scolaire et des établissements scolaires, touchés par ce phénomène de la drogue, et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Valéry Giscard d'Estaing vous confie à vous Monique Pelletier, cette mission-là, vous êtes une spécialiste depuis longtemps de ces questions d'enfance. Vous avez été au tribunal des enfants pour enfants de Paris, de Nanterre. Vous avez dirigé, je crois, à l'époque, vous dirigez encore l'école des parents. Et donc,
vous êtes très au courant.
Et donc, à ce moment-là, vous aviez donc une préoccupation éducative et d'attention portée à la jeunesse qui correspondait un peu au profil de ce que vous demandez le président de la République, Monique Pelletier.
Tout à fait, mais si vous voulez... L'histoire culturelle et sur l'opium, les fumeurs d'opium, les adultes qui, André Malraux et combien d'autres.
Jean Cocteau,
oui,
on en parlera
mais bien
jeudi,
sûr, oui. François Sagan, etc. Je pense que ça n'était pas dans le champ de ma réflexion parce que je sentais que nous avions une mission de prévention et de protection. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'alcoolisme touchait très peu les jeunes. Mmh. Il est devenu maintenant un péril pour eux. Mmh. Mais à l'époque, l'alcoolisme, c'était les adultes et le haschich, c'était les jeunes. Donc c'est vrai que le travail s'est concentré sur la protection de la jeunesse. Mais à l'époque, en 1977, je suis tombé dans un grand mur de silence. J'ai vu plusieurs recteurs, j'ai vu des parlementaires, j'ai vu une centaine.
Ah oui, il y a
de
toute la liste à la fin de.
Oui,
de...
mais j'ai vu. Et personne ne savait grand-chose, et ceux qui avaient des responsabilités les déniaient. C'est-à-dire, chez moi, il n'y a rien. Bien sûr, je sais que c'est un problème, mais dans mon établissement, rien du tout.
Et pourquoi cela? Parce que c'était mal vu ou il ne fallait pas apparaître?
Parce que c'était un problème un peu de l'ordre du fantastique, de la sorcellerie, c'était un mal en soi. Enfin, c'était quelque chose qui ne ressemblait pas à d'autres mots.
Ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que donc vous étiez nommé par le président Valéry Giscard d'Estaing, président de droite, dans un contexte où la gauche poussait pour pouvoir, depuis 1974, reconquérir le pouvoir. Il allait y avoir bientôt des municipales en 1978 ou des législatives qui allaient peut-être changer la donne. En tout cas, la gauche l'espérait. Et on peut se trouver, quand on lit la presse de l'époque, Monique Pelletier, un peu surpris de voir les alliances à revers, par exemple un parti communiste français, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était extrêmement dur sur la question, extrêmement répressif sur la question des drogues, considérant que le joint empêchait la lutte. C'était comme ça que c'était dit par l'humanité de l'époque. Vous vous souvenez de cette
période-là ? Mais j'ai reçu Georges Marchais, accompagné de plusieurs dirigeants de son parti, et j'ai été absolument effrayé de la répression qu'il proposait. C'est vrai que j'ai toujours dit que j'étais de droite en matière économique et de gauche en matière sociétale. Mmh. Donc je n'ai pas eu de difficultés dans mes contacts. Bon, il a fallu au départ que je rencontre Olivenstein, qui a été un des grands.
On en parlera demain dans le documentaire
de la
sur
drogue.
Marmottan.
Il faut en parler parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses formidables. Il a assez mal pris au début ma nomination. Et puis, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes compris. Il m'a aidé. Et je veux lui rendre hommage parce que c'est un grand monsieur qui a beaucoup fait pour la drogue.
Alors, il faut dire que Claude Olivenstein était à ce moment-là aussi devenue une vedette des médias. Son passage à Apostrophe en 1977 chez Bernard Pivot avait fait énormément avait produit le succès de son livre qui s'appelait, je crois, Il n'y a pas de drogué heureux, qui avait énormément de succès dans ces années 1977-1978 et que lorsqu'on pensait drogue, on pensait un peu docteur Olivenstein. Alors, il faut rappeler cette installation, on en parlera demain dans le documentaire, du centre Marmottan, donc au début des années 70, et une vision très particulière que pouvait avoir Claude Olivenstein de ce qu'était justement cette question de la drogue dans la société française de l'époque. Vous pouvez
Il a dénoncé la répression en expliquant que c'était le symptôme d'une difficulté d'une fuite devant la réalité et qu'il fallait faire parler ces jeunes. Et c'est lui qui a inventé la psychothérapie pour les toxicomanes et qui les a fait prendre en charge sur le plan psychiatrique alors qu'on ne parlait avant que de punir. Et j'ai encore vu des jeunes mis en prison en 77 dans des villes de province qui avaient peu de coutume et d'habitude par rapport à ce problème, pour avoir fait usage de cannabis, sans être des dealers. Et j'ai heureusement, dès que je suis arrivé à la justice, fait prendre une circulaire pour expliquer que la prison ne se justifiait pas dans pareil cas. Vous savez, c'était très, très différent. Et il faut comprendre que dire aux gens, un, il faut que vous soyez tous informés.
Et nous... Oui, parce que c'était un des points principaux de votre rapport que de dire la question passe par l'information. L'information des parents, l'information des éducateurs, l'information des policiers et la formation, disiez-vous.
Absolument.
La formation des policiers et des magistrats pour qu'ils sachent exactement ce dont ils retournent et qu'ils prennent des décisions en tant que policier ou en tant que magistrat en connaissance de cause.
C'est ce que informer et se concerter entre responsables. Et puis, traiter ce problème comme un problème d'addiction, de mal-être, comme d'autres. Il ne faut pas, je disais à l'époque, il ne fallait pas que la drogue soit un problème isolé, particulier, traité avec des mots étranges. Il fallait que ce soit un problème que la société traite comme un problème comme les autres.
Et vous disiez, en remettant votre rapport dans les nombreuses interviews que vous avez données à ce moment-là, vous disiez la drogue n'est pas encore un véritable fléau social comme l'alcool. C'est-à-dire que vous considériez que l'alcool, puisque vous faisiez dans votre rapport trois catégories de drogue, d'une certaine façon, il y avait les stupéfiants, les médicaments qui étaient détournés de leur usage thérapeutique, et puis les psychotropes divers, parmi lesquels on peut considérer qu'il y avait l'alcool, le tabac et les solvants, disiez-vous. Donc c'était la classification que vous faisiez à ce moment-là. Et vous disiez, tout compte fait, ça n'est pas encore un véritable fléau social. C'est-à-dire qu'il faut le prendre un peu alors que c'est en train de démarrer. C'est ce que vous sembliez dire.
Oui, c'était en train de démarrer, mais c'était surtout à traiter comme les autres questions. Alors, je voudrais dire un mot sur ce qui est dépassé dans ce rapport, parce que c'est important de le dire.
C'était il y a 30 ans, tout
de même. Oui, alors il y a des produits nouveaux, bien sûr. À l'époque, il y avait du LSD aussi.
Oui.
Il y avait quelques produits de synthèse.
Beaucoup, voilà.
Oui. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a découvert que trop de cannabis, trop de prises régulières de produits dont on ne sait plus maintenant ce qu'ils contiennent de produits essentiels, c'est-à-dire du THX. On ne le sait plus. Peut conduire à des lésions cérébrales et à des maladies mentales gravissimes. Ça, c'est une découverte d'il y a environ 15 ans, qui a été bien expliquée dans les médias et qui maintenant est devenue un fait acquis. C'est-à-dire trop de cannabis régulièrement et surtout un cannabis dont on ne connaît pas la composition, peut conduire à des maladies graves. Et ça, c'est une nouvelle donnée de ce problème.
Alors, revenons sur l'accueil que vous recevez. D'abord, ce qui est très amusant, c'est qu'évidemment, mais on connaît le rôle des médias et on sait, participant nous-mêmes à ce rôle, on sait comment fonctionnent les médias et fonctionnaient déjà les médias. Vous êtes immédiatement appelée Madame Drogue ou Madame Antidrogue. Enfin, on ne sait pas
oui,
très bien.
Oui, mais il y avait eu Monsieur Motto.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'était l'époque
voilà.
De Monsieur Donc, Madame.
Monsieur Madame. Donc, bon. On vous appelle Madame Drogue. Et alors, à partir de ce moment-là, on vous appelle plus Monique Pelletier. On dit Madame Drogue a dit ceci, Madame Drogue a dit cela. Lorsque vous publiez votre rapport, il y a des réactions très diverses. Alors, des réactions à gauche en particulier, on voit par exemple, même à votre nomination, et on voit bien la tension qu'il peut y avoir entre... à l'intérieur de la gauche sur ces questions-là et entre la gauche et la droite. On peut lire dans Le Matin, sous la plume, je crois, d'Hervé Chevalier, c'est une erreur de désigner une adjointe au maire de Neuilly pour se pencher sur le phénomène de la drogue. Ça n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Alors voilà, là, on voit bien les clivages.
Hervé Chevalier m'a coincé dès le début. J'ai beaucoup de respect pour lui et je l'aime bien. Et ben, on s'est réconciliés depuis. Mais il m'avait coincé sur un propos que j'avais tenu sur une radio sur « il est moins grave de fumer du hashish que de faire ceci, etc. » Et je ne crois pas qu'on puisse dire que ce problème a été traité d'une manière politique. Je crois même qu'on peut assurer le contraire.
Oui.
Donc, j'ai recueilli des avis de gauche comme de droite, et j'en ai tenu compte.
Mais le traitement, par votre commission, sûrement pas, mais la réception, en revanche, était politique, parce que le moment était un moment politique.
Le moment était politique, mais surtout, les médias étaient passionnés par ce problème.
Ah ben absolument, vous avez raison. Et on voit, quand on relit les articles de presse, c'est assez étrange. On voit, par exemple, cet article de Philippe Boucher dans Le Monde qui dit « C'est bien un signe de la Gadget Society, dit-il. Une madame quelque chose succède à une théorie de messieurs n'importe n'importe qui. Donc c'est toujours sur cette question du titre que vous donne. Et puis
c'était pas un tendre, Philippe Boucher.
Ah non, il avait une plume un peu trempée dans l'acide quand il le voulait. Et Libération dit en fait c'est le symptôme de la société giscardienne, puisque la société giscardienne, si on peut la caractériser, c'est une société de tolérance et d'hypocrisie, dit Libération. C'est la réponse giscardienne. On élargit le seuil de tolérance, on assouplit les lois et dans le même temps on s'appuie sur les valeurs sacro-saintes de l'Occident chrétien. On voit bien effectivement comment Libération peut réagir en 1978, mais ça veut tout de même dire qu'effectivement le combat politique s'empare de ces questions.
Oui, parce
qui sont des questions sociales et culturelles.
À l'époque, tout devenait politique.
Tout
d'ailleurs,
tout était politique.
Toujours aujourd'hui aussi. Oui. Il ne faut pas se faire d'illusions. Simplement, je sais que j'ai aussi bien ému les responsables qui m'avaient confié cette mission, parce que j'avais mes conclusions de mon rapport, que peut-être certains journalistes de gauche. Donc ça veut dire que j'avais raison.
Qu'est-ce qui vous avait surpris dans les nombreuses auditions que vous aviez menées? Vous l'avez déjà un peu dit, c'est-à-dire cette façon de se repasser la balle sans jamais être responsable de quoi que ce soit de la part des éducateurs ou des responsables policiers ou judiciaires. Mais qu'est-ce qui vous avait surpris justement dans ces rencontres multiples avec la société civile, comme on dit aujourd'hui, et les hommes politiques autour de cette question de drogue dans ces multiples auditions que vous avez pu
faire? Il y avait de toutes sortes d'avis. Il y avait des avis qui étaient matinés de littéraire et d'histoire de la drogue. Et il y avait des avis médicaux. À l'époque, un grand psychiatre qui s'appelait Denis Kerr était vraiment très répressif dans sa manière de traiter les héroïnomanes. Il y avait des psychiatres laxistes. Il y avait toutes sortes d'avis différents et il fallait en faire la synthèse.
Parce qu'il faut penser que depuis la loi de 1970, dont on n'a pas encore parlé, mais peut-être avant d'ailleurs, il y a une assimilation de la drogue à la maladie mentale. Les psychiatres ont beaucoup à faire dans ces années-là à la question de la drogue.
Comment si ça vous se me permettez de reprendre
précisez,
ce que vous voulez dire, à l'époque, on ne parlait pas d'influence de la drogue sur et déclenchant des maladies mentales.
Non.
On disait simplement c'est un mal-être qu'il faut prendre comme une dépression, comme
et donc
une mélancolie.
Traité en asile quelquefois, ou enfin en hôpital psychiatrique quelquefois.
Non, traité en hôpital psychiatrique si on veut à la fois sevrer, assurer le sevrage, mais le sevrage est efficace, un, que s'il est volontaire, et deux, que s'il est accompagné d'entretiens d'ordre psy.
Mais ça doit être difficile quand on a une telle mission, puisque c'était une mission, Monique Pelletier, qu'on n'est pas au départ une spécialiste de ces questions-là, de naviguer au milieu de ces avis extrêmement divers, voire divergents sur une question sociale et culturelle comme la question de la drogue. On l'a dit pour le Parti communiste, mais il y a également des élus de la majorité de l'époque dont vous étiez qui prônent des milices anti-drogue. C'était le docteur Revagnan dans le Val d'Oise, je crois. Qui avait la volonté de le faire.
Je ne partageais pas tout à fait.
Non, vous lui avez répondu.
Pas du tout.
Vous l'avez répondu à l'époque qu'il ne fallait pas en arriver à la chasse aux sorcières.
Oui.
Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a d'un côté des tendances extrêmement répressives et des tendances extrêmement libérales.
Je pense que c'était parce qu'on ignorait à peu près toute cette question. Sauf pour l'héroïne.
Donc les décideurs politiques vivaient au niveau du fantasme, vouliez-vous dire, ou de l'idée générale.
Ils ne s'en occupaient pas. À part la loi de 70 qui a fait l'objet d'un vote et qui est une loi raisonnable, qui a peut-être maintenant des aspects qui pourraient être modifiés, mais enfin bon.
À laquelle vous n'avez pas voulu toucher d'ailleurs dans votre rapport, à la loi de 70,
en disant que c'était pas la peine.
Alors elle alourdissait les peines des trafiquants, elle établissait le délit d'usage, entre autres, et puis elle mettait en place l'injonction thérapeutique.
Oui, ça a été un vœu pieux, parce que c'est pas parce qu'il est écrit sur un jugement que vous avez une injonction thérapeutique, vous vous rendez aussitôt à marmottant.
Mais c'était en 1970, c'était au moment aussi de la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas, c'était
tout
dans une volonté qui n'était pas encore une volonté de répression à tout craint.
Mais je pense qu'il fallait être compris, donc il fallait être tolérant, et il fallait parler vrai, c'est-à-dire ne pas dire n'importe quoi. Ne pas dire que si vous un jour vous avez une piqûre d'héroïne, vous allez mourir d'une overdose. Il fallait dire la vérité, c'est-à-dire la vérité, elle est relative. Et je dirais qu'à l'époque, si j'avais deviné ce que deviendrait après la consommation de drogue, je crois que j'aurais réagi de la même manière. C'est-à-dire c'est un problème qui doit être traité publiquement avec tolérance parce que il y a toujours un mal-être dans la démarche vers la drogue, mais en même temps avec lucidité parce qu'il y a des mesures de prévention à prendre
et à l'information,
notamment par l'information. Et puis il y a des lieux qu'il faut établir pour que les drogués entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui vraiment ne peuvent plus s'en passer, qui sont devenus dépendants, puissent être soignés et puissent être remis en bonne santé.
Vous avez encore la réputation d'avoir une langue bien pendue et de ne pas vous laisser faire en politique. En particulier, vous avez été aussi, on ne l'a pas encore dit suffisamment, une des femmes de droite les plus actives dans le domaine du féminisme et de l'accès des femmes aux fonctions politiques. Aux fonctions politiques. Vous aviez d'ailleurs témoigné dans la série de Séverine Yatard que nous allons rediffuser d'ici une quinzaine de jours maintenant dans la Fabrique de l'Histoire sur les femmes en politique. Et je me souviens de votre intervention extrêmement vive en expliquant comment vous aviez été roulé dans la farine, pourrait-on dire, par les hommes politiques de l'époque, pour qui ne voulaient pas vous voir accéder à certaines responsabilités publiques et politiques et qui préféraient se garder les postes pour eux-mêmes. Et je crois d'ailleurs que Raymond Marcellin, dont on a parlé tout à l'heure, avait joué un rôle dans cette affaire-là.
C'est pas un milieu facile, hein. Je crois que c'est un lieu commun que de le dire.
et donc, cette liberté de ton, vous en avez profité dans ce moment, au moment où vous rendez votre rapport de 1978, c'est-à-dire que on ne vous connaît pas encore vraiment sous ce jour-là. On va vous découvrir plus tard dans votre rôle de ministre de la Condition féminine. Mais est-ce que vous profitez de cela ?
Le secrétaire général de l'Élysée, ayant lu ce rapport, me dit « Il n'est pas possible de le diffuser ainsi. Il est beaucoup trop marqué par... la tolérance, voire une compréhension un peu excessive, il faut modifier un certain nombre de points. » Et j'ai répondu, je ne le signerai pas s'il n'est pas celui que je vous remets aujourd'hui.
Et alors, comment s'est passée la négociation?
Je crois que c'est Giscard qui a tranché et qui a dit, bon, ben, on le publie tel quel, quoi. Il est complet, il est bien, et puis c'est l'opinion de la personne que j'ai chargée de cette mission. Donc, ça a été mon premier acte de résistance en politique, et je crois que j'ai eu raison.
Et alors, vous avez donc quelques réticences au niveau des hauts fonctionnaires, et puis on vous pose des questions qui sont des questions qui aujourd'hui apparaissent comme un peu anodines, mais qui sont des questions qui apparaissent gênantes dans le contexte de l'époque. On vous dit, qu'est-ce qu'on fait des drogués en post-cure? Et là, on vous parle du patriarche, par exemple.
Le patriarche qui venait jouer de la guitare dans les escaliers de Matignon. Le patriarche qui s'est révélé être un escroc. Mais qui a, au lieu d'être dépendant à la drogue, ceux qui l'accueillaient devenaient dépendants du patriarche. Mmh. C'est un personnage. J'ai demandé à l'éducatrice qui était dans mon équipe d'y aller quelques jours pour pouvoir me dire ce qu'il en était, parce qu'il y avait des avis très contraires. Et il a essayé de la violer, il est revenu en courant.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Oui, oui, aussi, absolument. Absolument. Et elle s'en souvient et on en reparle quelquefois. C'était un personnage qui a... Vous savez, les familles étaient dans le malheur quand ils se trouvaient face à une toxicomanie d'un de leurs enfants, ils ne savaient pas quoi faire. Donc là, on vous disait, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de... On travaille la terre, on a des activités. Bon, les familles cherchaient tout ce qui pouvait les aider.
Et vous répondiez à cette question qui pouvait être gênante sur le patriarche à l'époque. Vous répondez, vous savez, dans les articles de presse, vous disiez, la plupart des personnalités spécialistes en toxicomanie sont hors normes, disiez-vous. Pour bien expliquer qu'effectivement, tous ceux qui travaillaient sur cette question-là ne rentraient pas dans les cases qui avaient été prévues, ni par la faculté de médecine d'un côté, c'était le cas du docteur Olivier Weinstein, ni par tout un tas d'autres instances.
Oui, mais le
instances.
Patriarche, il a été formidablement habile et il a profité de l'angoisse et du malheur des familles. Hein. Bon, paix à son âme, je crois qu'il est mort.
Vous avez d'autres scandales qui se déclenchent au moment du rapport ou un peu auparavant. Il y a l'affaire du cloître, qui est un lieu d'accueil d'Emmaüs dans le quartier d'Attin, qui est fermé par la police, parce qu'évidemment, on dit c'est un lieu théoriquement d'accueil pour les anciens toxicomanes, mais c'est là aussi où certains dealers viennent proposer leurs services. Et donc, vous devez faire en sorte de... d'harmoniser, pourrait-on dire, des pratiques sociales et politiques de gestion de cette question de la drogue extrêmement diverses et très différentes selon que qu'on se trouve sur telle ou telle partie du territoire français.
Ben oui, par exemple, à Saint-Dizier, il y a un gamin qui est resté détenu pendant 2 mois pour avoir fait un usage occasionnel de haschich. Bon, c'est dingue. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'attribue cette différence de traitement, que ce soit par une administration, une autre, ou dans un département ou un autre, par l'ignorance. Et je pense que c'est en cela que ce rapport a été utile. Et depuis, il y en a eu d'autres, et chaque fois cela a été utile, parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure, dire de quoi il s'agit, dire quels sont les enjeux, dire ce qui se passe dans les familles d'un drogué, dire ce que devient le drogué, etc.
Oui, on vous dit à ce moment-là, mais c'est bien beau votre histoire, en particulier les centres de post-cure, mais enfin, les maires ou les conseillers généraux vous disent, mais attendez, on en veut bien les centres de post-cure, mais surtout pas chez nous. Donc, il va falloir convaincre ces gens-là d'accepter, sur leur territoire, dans des lieux qui sont au cœur des villes ou juste en périphérie de ces villes, l'installation oui, de ces...
C'est la même chose aujourd'hui pour les logements sociaux.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est la même chose pour tout ce qui dérange. C'est vrai qu'on préfère toujours que ce soit chez le voisin.
Not in my backyard, comme disent les Américains.
Voilà. J'ai connu un pasteur à Nice, le pasteur Claudel, qui était formidable. Il a fait une chaîne thérapeutique entière, depuis le début de la consommation jusqu'à la guérison. J'ai connu des gens formidables dans ce domaine, mais c'était des expériences, ils étaient tout seuls, ils n'étaient pas aidés,
oui,
ils n'étaient pas compris.
Il faudrait d'ailleurs faire presque une sorte de catalogue. On a traité du patriarche, de Claude Lichtenstein, il y avait le père Jaouen, qui avait...
Mais il est toujours.
Oui, qui participait à ces voyages, qui a emmené donc des jeunes
Mais c'était merveilleux, parce que c'était des expériences à la fois extrêmement généreuses, très novatrices, et qui ont ouvert des voies. Et ces voix, on les a empruntées après, d'une certaine manière.
Oui, il faudrait presque faire un dictionnaire des acteurs de ces années-là, qui ont une importance. Puis il y a les acteurs de l'ombre, qui sont ceux qui pratiquent le trafic. Je crois que vous avez raconté dans les articles de l'époque, vous aviez été extrêmement choqué, par l'entretien que vous avez eu avec une femme de trafiquant de drogue au Baumette. Est-ce que vous vous souvenez de cet
bien,
entretien?
Très bien, oui, très bien. Mais je me souviens surtout d'un entretien extraordinaire, si j'ai une seconde pour
le
raconter.
Allez-y, racontez-le.
Un confrère avocat me dit « Je vais t'emmener à Fleury-Mérogis parce que j'ai un client qui est de Hong Kong, qui est richissime, il suffit d'envoyer un télégramme, on a des honoraires en retour. Son père possède les wagons, les hôtels, etc. Et qui est accusé d'un trafic très, très, très important de drogue, d'héroïne à l'époque. Je vais à Fresnes avec lui et je lui dis, tu sais, moi, les trafiquants, je n'ai pas envie de les défendre parce que ce rapport que j'ai fait, j'ai condamné les trafiquants et, d'une certaine manière, essayé de protéger les usagers. Et j'arrive devant ce Chinois, qui était très élégant, qui parlait français comme vous et moi, qui me dit « Vous n'aurez pas à étudier ce dossier. Vous aurez simplement à vous asseoir le jour de l'audience et la phrase que vous aurez à dire, c'est « J'ai dit que je ne défendrai jamais un trafiquant, mais si je suis là aujourd'hui, monsieur le président, c'est parce que monsieur Ichung-Chang Pen, je ne sais pas quoi, est innocent. Vous vous rasseyez et vous voulez combien ? 50 000 ? 100 000 ? 200 000, 300 000, 400 000. Bon. Et c'est monté jusqu'à ce que je l'arrête et que je lui dise non. Je rentre chez moi, je me regarde dans la glace et je me dis, tu es vraiment pas maligne. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de dossiers, c'était après 81. Et heureusement, il a été condamné et très fortement condamné. Voilà. C'est une histoire qui reste dans l'esprit parce que cela montre à quel point les gros trafiquants sont riches. À quel point les gros trafiquants sont prêts à n'importe quoi.
Et bien justement, dans cette histoire de femme qui nous a conduit à ce trafiquant chinois, dites-vous, elle est au Baumette et vous la rencontrez et vous dites, elle vous dit, mais de toute façon, ils n'ont que ce qu'ils méritent, ces drogués, puisque ce sont des imbéciles. Et ça vous choque profondément.
Mais oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'elle essayait vis-à-vis de moi de justifier ce trafic par des raisons qui sont des raisons totalement dénuées d'humanité, enfin, qui sont des raisons imbéciles.
Alors, quand on rend un rapport, si on est un peu lucide, un gouvernement ou un président de la République, on peut se dire que tout ou partie, voire la plupart du rapport, ne sera pas appliqué, finira dans un tiroir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que souvent les rapporteurs, avec un certain cynisme, jugent leur propre travail. Ils disent, de toute façon, on a fait notre boulot, mais ça n'est pas appliqué. Qu'est-ce qu'il en a été des préconisations que vous donniez dans votre rapport, Monique Pelletier, en 1978, sur les drogues?
Il y a d'abord eu l'organisation, et ça dure toujours, de réunions régulières au niveau de la commune, du département, sur l'état de la drogue dans le département. Il y a eu la création...
Information et coordination,
voilà.
C'était ça le
point
fort.
Il y a eu la création de la MILT, à l'époque, mission permanente sur la drogue, observatoire et de proposition. Et puis, il y a eu, il me semble, une meilleure compréhension du problème et une meilleure approche par les diverses administrations en cause, de la police, de la magistrature et des médecins. Je pense qu'il y a eu une évolution dans la compréhension. Alors, bien sûr, on n'a pas construit ni mis en place tous les centres qui auraient été nécessaires. Il y a un abîme actuellement entre l'hôpital psychiatrique et la famille, il n'y a pas grand-chose, et c'est un gros, gros problème pour les familles. Mais j'estime que ce rapport n'a pas été inutile.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il se situe, ce rapport, à la charnière de ce que les historiens appellent la première partie et la seconde partie du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Il est encore dans l'énergie de la nouvelle société que voulait Valéry Giscard d'Estaing, le changement dans la continuité.
Oui, la majorité à 18
voilà,
ans, l'IVG, etc.
La question des prisons, les rapports comme cela. Et il est juste avant quand même un durcissement un peu sécuritaire de ce septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que vous en êtes d'accord ou vous semblez douter de cela, Monique Pelletier?
Je pense que dans ce domaine de la drogue, non. Parce que si j'ai pu faire prendre la circulaire qui a été une révolution à la chancellerie, j'ai eu beaucoup de mal parmi les magistrats de la chancellerie. Il l'a accepté et c'était une circulaire très...
Libéral ?
Oui, qui mettait fin à des erreurs judiciaires sur notamment la prison pour des usagers de cannabis. Mais je ne pense pas qu'il ait évolué vers une action et une conduite des affaires très répressives.
Plus répressives, oui.
Je ne le crois pas. Je crois que, bien sûr, les événements ont été là et puis voilà. Mais je dirais qu'il a été... Il avait une vision et il était très en avance sur son temps, sur beaucoup de problèmes.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez ensuite devenir, Monique Pelletier, une sorte de référence. C'est-à-dire que même lorsque vous n'aurez plus ces questions en charge, on viendra vous voir. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, parce que ce rapport fait date. En 1980, vous êtes auprès du ministre de l'Éducation, Christian Belac, autant que je me souvienne.
Non. Je suis 78, je suis secrétaire d'État à la justice, et à partir de fin 78, je suis ministre de la condition féminine et de la famille, jusqu'à la campagne présidentielle
de
à laquelle j'ai participé.
Mais vous présentez, alors si vous n'êtes pas avec lui, vous présentez avec lui, avec Christian Belac, des données sur la drogue.
À diffuser dans les écoles, dans les
Absolument,
lycées, dans les collèges.
Ça,
tout à fait, mais j'ai fait ça avec beaucoup d'autres collègues dans leur administration, parce qu'il y avait vraiment besoin d'expliquer aux administrations la conduite à tenir.
Mais ça veut dire que même lorsque vous changez d'affectation ministérielle, que vous devenez donc...
Je restais officieusement chargé de la drogue.
Oui, c'est ça qui est très intéressant.
Non, mais j'ai été officieusement, ça n'était pas public, mais le président de la République m'a demandé de continuer à veiller sur ce problème. Et donc... Quand je voyais une administration qui ne faisait pas ce qu'elle aurait dû faire, j'essayais, avec le ministre concerné, de parler aux responsables.
Alors, vous disiez qu'au début, avec Claude Olivenstein, c'était un petit peu difficile, et puis qu'ensuite, vous aviez fini par vous entendre, vous accorder sur certaines...
D'abord, nous voir, parce qu'il ne voulait pas me rencontrer.
Alors, il a tout de même, à certains moments, lancé quelques piques, y compris au moment de la publication du rapport, en disant que c'était un quadrillage supplémentaire, qui était un quadrillage spécifiques et psychiatriques qui s'ajoutaient au quadrillage qui existait déjà, policier. Et puis ensuite, il a évidemment été plus tendre et plus doux par rapport à vos préoccupations et vos
préconisations. Nous avons même tenu des réunions ensemble.
Ce qui est déjà beaucoup, étant donné effectivement l'impact et l'importance qu'il avait dans la conscience publique sur ces questions-là.
Et que je lui reconnais.
Et alors... Quand la gauche arrive au pouvoir, donc Valéry Giscard d'Estaing est battu, vous allez continuer à vous intéresser à ces questions-là, Monique Pelletier, pour votre propre parti et pour votre propre groupe, ou est-ce que vous allez petit à petit vous détacher de ces questions pour vous attacher, et c'est là-dessus que vous allez continuer à travailler, à la question qui va devenir la parité, mais du rapport homme-femme en politique en particulier?
Non, j'ai toujours suivi l'évolution de la toxicomanie en France, bien sûr, mais en tant qu'avocat, je n'ai défendu que des usagers. Et je me souviens notamment d'une polytechnicienne qui était héroïnomane, une jeune femme charmante, mais qui était très très mal. Et à ce moment-là, cela m'a confirmé dans le sentiment que sa démarche était une démarche de malheur, de fuite, et qu'il fallait pas la condamner, mais l'aider. Et donc j'ai défendu des usagers, quelques-uns, jamais de trafiquants, jamais. Et j'ai suivi le problème parce que c'est un problème qui est très intéressant sur le plan de la société.
Alors justement, par exemple, on a une date qu'on voit émerger, c'est la date de 1983 où la gauche, après des mesures qui sont plutôt libérales, là aussi, s'en empare avec un tournant un peu, on va pas, peut-être pas dire sécuritaire, mais en tout cas prenant conscience que les questions de drogue sont peut-être plus importantes que l'attention qu'elle y portait auparavant. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment de 1983 et des débats qu'il pouvait y avoir à l'intérieur même de la gauche, là, même si vous étiez spectatrice?
Oui, j'en ai une connaissance, mais je n'y ai pas participé. En revanche, j'ai été très souvent invité à des colloques sur cette question et j'ai apprécié les rapports qui ont suivi, rapport de Catherine Trottmann, rapport de... Je ne me souviens plus, mais il y en a eu plusieurs et chaque fois ça progressait. Mais l'esprit restait le même, c'est-à-dire que c'était toujours une recherche de solutions humanistes à un problème qui est un problème de désarroi. Donc, bien sûr, il faut réprimer, et je pense que les trafiquants sont très difficiles à arrêter, à trouver, à condamner. Les filières sont extrêmement sophistiquées, et ça, c'est un vrai problème pour la police.
Mais il y a une vraie différence par rapport au moment où vous commencez à travailler. Vous commencez à travailler à un moment où, on l'a dit, les données sont relativement peu fiables, assez peu établies, où on est à la première génération de masse, pourrait-on dire, de personnes qui sont touchées par cette question du phénomène de la drogue. Et puis, aujourd'hui, on est quelquefois à la deuxième, troisième génération, les rapports se sont accumulés, les données sont plus nombreuses, les connaissances sont plus précises. Et donc, j'imagine qu'on ne peut pas penser de la même façon aujourd'hui que ce que vous pensiez à l'époque, en particulier sur cette question de la... du rapport entre des parents et des enfants, qui des parents ont pu être eux-mêmes touchés par la drogue, soit l'héroïne, soit plus encore plus largement le haschich, et donc le rapport avec leurs enfants doit être un peu différent de ce que pouvait être le cas de ceux des années 70, par exemple.
Depuis 30 ans, la société a évolué beaucoup, mais il y a aussi, bien sûr, le phénomène que vous indiquez, s'il n'est pas très fréquent, se produit, mais il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a maintenant des centres pour toutes les addictions, mais un seul centre. Addiction à l'alcool, addiction aux jeux, addiction aux achats, addiction à la drogue. Et je pense que le fait d'avoir, entre guillemets, banalisé...
Noyer la question des...
Pas noyer, banalisé, c'est-à-dire le traiter comme les autres problèmes d'addiction. C'est une addiction. Simplement, la découverte qui a été faite des ravages cérébraux, c'est quelque chose qui doit vraiment faire réfléchir ceux qui s'occupent des jeunes et les jeunes eux-mêmes.
Oui, alors, tout de même, c'est très intéressant parce que vous le pointiez du doigt, cette question de l'alcool, en disant dans votre rapport, ça n'est pas à moi de le traiter d'une certaine façon, mais il faudrait quand même le traiter ailleurs. Ce qui devait être plus difficile encore que de traiter de la question de la drogue, parce que l'alcool touchait beaucoup de Français.
De jeunes à l'époque.
Non, mais touchait et puis était partagé comme une sorte de valeur positive, pourrait-on dire.
Et puis surtout un plan économique qui fait qu'il est très difficile de s'attaquer à l'alcoolisme. Et je dirais que c'est un combat que mènent certains héros, parce que je pense que l'alcoolisme est un grand, grand malheur quand il investit une personne. Mais je pense qu'il y a des enjeux économiques tels que c'est très, très difficile de progresser.
Oui, et donc effectivement, c'est plus difficile de s'attaquer à cette question-là, peut-être.
Oui, sauf qu'on connaît les alcooliers et on les sait où ils sont, alors qu'on ne connaît pas les trafiquants de drogue et on ne sait pas où ils sont. Et ce sont des parcours incroyables de la drogue. Mais il faut aussi se féliciter des saisies massives qui ont été faites dans les dernières années. Je pense que la police, maintenant, est beaucoup, beaucoup plus efficace et qu'elle connaît mieux les systèmes des trafiquants.
Et puis, une des choses qui a peut-être beaucoup changé, c'est l'information. C'est vrai que vous insistiez dans votre rapport de 1977-78, Monique Pelletier, sur la nécessité de faire connaître, de transmettre. Aujourd'hui, effectivement, avec des médias qui sont bien plus nombreux, avec l'Internet, il est difficile de ne pas savoir, en tous les cas. Si on veut savoir, on peut savoir assez facilement à la fois comment se transmet cette question de la drogue, comme les rapports entre les uns et les autres, les trafics, les méfaits de certaines drogues et des autres.
Et les lieux où l'on peut aller.
Donc, d'une certaine façon, il est plus simple d'avoir l'information aujourd'hui que de l'avoir dans les années 70.
Ah, tout à fait. Mais d'ailleurs, dans tous les domaines, pas seulement dans celui de la drogue. L'information est un progrès formidable de notre société depuis qui évolue sans cesse. Alors, il faut les trier. On ne peut pas toutes les recevoir. Mais quand une famille est interpellée par le problème de la drogue, elle trouve de l'information qu'elle ne trouvait pas il y a 30 ans.
Et également, une ouverture à l'international, ce qui n'était pas le cas auparavant, puisque effectivement, vous étiez une des premières dans ce rapport à vous poser la question, non seulement de la France, mais également de comment on faisait auparavant, en faisant du comparatisme. C'est nécessaire de faire du comparatisme, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours, on va chercher des solutions au Danemark, en Suède, en Suisse ou en Espagne.
Lorsqu'on a mis en France, autorisé les produits de remplacement à l'héroïne, ça a été inspiré de ce qui se faisait aux États-Unis. Mais à mon époque, c'était les paysans de l'Afghanistan auxquels on essayait d'apprendre avec des pipettes à arroser des fraises. Ils préféraient cultiver de l'opium, ça rapportait plus et ça rapporte toujours plus.
Oui, ça c'est bien évident. Comment en êtes-vous vous avez continué à travailler sur ces questions-là, et vous dit Monique Pelletier, et puis il y a d'autres projets qui se sont greffés là-dessus, je l'ai dit, les questions de politique, de rapport, de parité entre hommes et femmes. Et puis il y a un dernier combat que vous continuez à mener, c'est celui du handicap aujourd'hui. Alors, vous êtes à peu près dans la situation dans laquelle vous étiez en 1977, voilà un problème majeur de notre société dont personne ne veut parler.
5 millions de personnes handicapées, dont une grande partie devrait vivre avec nous et comme nous, parce qu'ils sont parfaitement adaptables au travail, parfaitement adaptables à l'école, mais qu'ils déclenchent une sorte de rejet, de peur, d'indifférence, malgré les propos des pouvoirs publics qui sont toujours des propos émouvants.
Souvenons-nous quand même d'une année, c'était il y a 2 ou 3 ans, décrété année du handicap, ou même c'était le deuxième quinquennat de Jacques Chirac qui devait être le quinquennat de développement des questions sur le handicap.
On en fait toujours un problème à part. C'est comme pour la drogue, quand j'ai dit, il faut le traiter comme les problèmes d'alcool, d'addiction diverses. Le problème du handicap est un problème de santé publique et il ne faut pas le traiter à part, sauf pour de très grands handicapés dépendants qui appellent des soins dont on manque aujourd'hui, des places dont on manque. Mais notre association...
Conseil national du handicap.
Je suis heureuse de le dire à votre antenne. Cherche, par la communication, à changer les comportements du grand public par rapport aux personnes handicapées et le comportement de tous les intervenants, que ce soit des architectes. À Paris, une personne handicapée en chaise roulante ne peut pas circuler dans les rues. Rien n'est accessible, alors que la même personne handicapée en fauteuil roulant va à Londres et dit « j'ai cru être au paradis parce que je pouvais me promener ». En France, nous sommes en retard sur tous les plans. et les belles paroles, que je crois très sincères d'ailleurs, hein, hélas, ne se traduisent pas encore dans les faits comme il faudrait.
Mais comment l'expliquez-vous ? Vous dites que c'est un problème de regard de la société sur les handicapés, de volonté de ne pas voir, de ne pas en discuter, de ne pas en débattre. Qu'est-ce qui explique que ce combat que vous menez maintenant, après ce que vous avez mené auparavant, n'est peut-être moins de chance, et peut-être moins de chances de réussir momentanément que les combats précédents, Monique?
Alors, je dirais que c'est très français. Les pouvoirs publics, pendant des siècles, ne se sont pas occupés des personnes handicapées qui étaient très bien dans leur village, accueillies comme infirmes, entre guillemets. Et bon, le problème était
réglé à l'intérieur des familles.
Voilà. Ensuite, comme les pouvoirs publics restaient toujours défaillants, des associations se sont constituées entre les familles d'enfants handicapés notamment, qui avaient un mal de chien et qui se trouvaient face à des situations qu'elles ne pouvaient gérer seules. Et ces associations, puisqu'il y avait manque de l'action des pouvoirs publics, sont devenues très fortes. Certaines d'entre elles sont très puissantes et il me semble, encore que le travail qu'elles font soit tout à fait utile et respectable, que cela contribue à enfermer les personnes handicapées dans un ghetto qui est celui de la marque, du signe qu'ils ont sur le front, personnes handicapées, alors que la plupart d'entre eux peuvent vivre comme nous. Et quand on parle de diversité, on pense à la diversité ethnique, et moi je dis, et je viens justement de rédiger un papier dont j'attends la publication, que le handicap devrait faire partie de cette diversité et que ce serait heureux qu'à des nominations, des postes voyants pour que l'on comprenne qu'il s'agit d'un autre regard sur le handicap, des personnes handicapées puissent être nommées.
Vous voulez dire que le travail que vous avez mené avec d'autres femmes politiques de droite et de gauche, d'ailleurs, rappelons-le, pour la parité, pour l'accès des femmes aux responsabilités politiques, eh bien, il faudrait le mener maintenant sur cette question du handicap, aussi bien que sur la question de la diversité ethnique, c'est ce que vous voulez dire?
Je veux dire que la diversité doit comprendre le handicap. Et pas seulement la diversité ethnique. Je pense que quand on parle de gouvernements divers, d'instances diverses, etc., où sont les personnes handicapées ? Elles sont parfaitement capables, pour la plupart d'entre elles, de faire le même travail. Nous avions constaté, excusez-moi, juste un mot, nous avions constaté avant les élections municipales qu'il y avait sur des milliers de conseillers municipaux moins de 30 personnes handicapées. Eh bien, je vous dis, nous avons fait une campagne en montrant que Roosevelt avait conduit son pays en fauteuil roulant. Et je pense que c'est peut-être par des petites actions comme celle-là qu'on arrivera à inverser le cours des choses.
Merci Monique Pelletier d'avoir accepté d'être parmi nous, donc avec nous, pour ouvrir cette semaine consacrée dans la Fabrique de l'Histoire à l'histoire des drogues. Nous continuerons demain en traitant de cette affaire de 1969 à Bandol et qui a contribué au débat public et à une sorte d'émotion publique autour de la question des drogues, et puis ensuite peut-être à la loi de 1970, et nous traiterons également de Marmottan dans le documentaire de demain. Mercredi, eh bien, nous en viendrons à évoquer les changements d'image dans le cinéma, la littérature, justement de ces questions des drogues dans les années 70, là encore. Et pour finir, eh bien, jeudi, nous traiterons de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'opium, les écrivains, les années qui courent de 1830 à 1950. Ça sera le thème du débat historiographique. Merci encore d'avoir été avec nous, Monique Pelletier.
Et merci.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonna Bolivier et Aurélie Marcet. Le site internet sur lequel vous pouvez l'écouter pendant un mois, la télécharger pendant une semaine et également trouver des bibliographies complémentaires est tenu par Antoine Lachan. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédéric, à la réalisation Marie-Ange Garandeau. Et un numéro de téléphone, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78. Une adresse, pièce 61 23 à la Maison de Radio France, 75 220 Paris Cedex 16. Et une adresse internet, www.franceculture.com, rubrique Les Émissions, La Fabrique de l'Histoire. Donc, à demain.